Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info consacré à l'évolution de la crise du Covid-19. Au menu, l'OMS appelle l'Afrique à se préparer au pire et à éviter les rassemblements de masse. Près de 25 millions d'emplois dans le monde pourraient être perdus à cause du Covid-19. Le PAM prêt à relever le défi de l'aide d'urgence et de l'appui logistique et endosser l'expérience acquise dans la lutte contre Ebola pourrait aider la République démocratique du Congo à lutter contre le coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé a appelé l'Afrique à se réveiller face à la menace du nouveau coronavirus. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui, a lancé le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève. On l'écoute.
The best advice for Africa is to prepare for the worst and prepare today.
Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui. Il vaut mieux que ces cas recensés soient vraiment les chiffres exacts pour que l'on puisse étouffer le nouveau coronavirus dans l'œuf. C'est pourquoi nous conseillons de faire des tests, de rechercher les contacts, d'isoler et de traiter. La recommandation de l'Organisation mondiale de la santé est en fait d'éviter les rassemblements de masse et de tout faire pour couper le virus dans l'œuf en espérant que le pire puisse se produire, car nous avons vu comment le Covid-19 s'accélère vraiment et se propage dans d'autres continents ou pays. C'est donc notre conseil et je pense que l'Afrique devrait se réveiller, mon continent devrait se réveiller.
Africa should wake up. My continent should wake up.
La crise économique et du travail créée par la pandémie Covid-19 pourrait augmenter le chômage mondial de près de 25 millions de personnes, selon une nouvelle évaluation de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Toutefois, souligne Guy Ryder, le directeur général de l'OIT, si une réponse politique coordonnée est mise en place au niveau international, comme cela s'est produit lors de la crise financière mondiale de 2008-2009, l'impact sur le chômage mondial pourrait être nettement plus faible. Pour ce faire, il importe d'agir dans trois domaines. Guy Ryder.
Tout d'abord, nous devons faire en sorte que les choses se passent bien sur le lieu de travail. Nous devons donc protéger les travailleurs, les considérations de base en matière de sécurité et de santé au travail. Le matériel de sécurité adéquat doit être disponible. Ensuite, nous devons examiner d'autres méthodes de travail. Nous devons faire les choses correctement au niveau de l'entreprise, puis au niveau national, nous devons soutenir les entreprises en difficulté. Et ne nous voilons pas la face. Nous savons que les grandes et les petites entreprises éprouvent de réelles difficultés à poursuivre leurs activités en raison de l'interruption de leurs revenus. Nous devons également protéger les emplois. Les travailleurs et les employeurs doivent négocier ensemble sur la manière de maintenir les gens dans leur emploi. Tout cela doit continuer. Nous devons veiller à ce que la protection sociale soit accessible à tous ceux qui en ont besoin. Si l'on vous demande de vous isoler en raison de cette pandémie, vous devez être sûr de recevoir des indemnités de maladie sur lesquelles vous pourrez compter dans ces circonstances. Et enfin, dans une situation où le marché du travail et l'économie sont soumis à de telles pressions, nous devons mettre en place des politiques budgétaires et monétaires appropriées.
Face à la pandémie de Covid-19, le Programme alimentaire mondial est prêt à mettre son expertise et ses infrastructures au service de la réponse mondiale. Il apporte déjà un soutien en aidant l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec le transport de certains matériaux. Pour Elisabeth Birce, porte-parole du PAM, la plupart des personnes qui dépendent de l'aide alimentaire du PAM sont déjà confrontées à des défis tels que la pauvreté ou l'insécurité alimentaire. Et la pandémie Covid-19 ajoute une autre couche à cela. Elisabeth Birce.
86 millions de personnes dépendent du Programme alimentaire mondial pour leur assistance alimentaire. Et en même temps, nous devons assurer la sécurité de notre personnel. Le Covid-19 s'ajoute pour certaines personnes à déjà une pauvreté, une insécurité, une lutte quotidienne pour apporter de la nourriture à leur famille. Donc, les plus fragiles doivent être protégés. Le PAM a mis en place un plan opérationnel qui consiste au prépositionnement stratégique pour 3 mois de réserves alimentaires pour nos opérations prioritaires. Cela veut dire que 3 mois de réserve doivent être constamment prépositionnés. C'est pour cela que nous demandons aux donateurs de remplir leurs engagements au plus vite pour que nous ayons assez de liquidités et de ressources financières pour pouvoir assurer ces 3 mois d'approvisionnement partout où le PAM agit dans les crises. C'est extrêmement important que l'argent arrive à temps.
Alors que plusieurs personnes ont été diagnostiquées positives au nouveau coronavirus en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement congolais pensent que l'expérience acquise dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola pourrait les aider. Au micro d'Alpha Diallo, le docteur Ibrahima Sochefal, directeur adjoint de l'OMS en charge de la réponse aux urgences, fait le point sur l'épidémie d'Ebola et note que les approches de contrôle de ces deux épidémies sont les mêmes.
Le dernier cas positif de maladie à virus Ebola a été enregistré le 17 février. La personne a été traitée et guérie de la maladie aujourd'hui. Donc, nous avons commencé le compte à rebours et si tout se passe bien, le 12 avril, la fin officielle de l'épidémie devrait être déclarée. Ça a été une épidémie complexe dans une zone de conflit où il y a des dizaines de groupes d'armées, où le système de santé aussi est resté très faible et une population réfractaire au gouvernement central. Donc cela a fait 3444 cas et plus de 2200 décès. Le bilan est lourd et je pense que les efforts nationaux et internationaux ont permis d'arriver à bout de cette épidémie. Mais il faut rester vigilant parce qu'il y a toujours possibilité de résurgence du fait des niches écologiques favorables aux réservoirs de virus et du fait aussi que nous avons donc plus de 1160 guéris de cette maladie. Vous savez, le virus peut rester dans le corps de certains guéris pendant plus d'un an.
Donc si tout va bien, la RDC pourra déclarer la fin d'Ebola le 12 avril prochain. Dans ces moments-là, vous vous dites quoi? Qu'est-ce qui fait la différence?
Nous avons appris beaucoup de leçons au cours de cette épidémie. D'abord, c'est une épidémie qui est apparue dans une zone éloignée, qui a été détectée très tardivement. Donc, au moment où l'épidémie était annoncée le 1er août 2018, il y avait déjà beaucoup de chaînes de transmission donc non détectées. Il a fallu un travail de fourmi dans des conditions difficiles, surtout engager la communauté pour pouvoir les avoir avec les équipes de réponse, c'est crucial parce que la surveillance à base communautaire est l'élément essentiel. La détection rapide des cas pour pouvoir les isoler, l'identification des contacts et la possibilité de les suivre aussi pour détecter tout nouveau cas et agir très rapidement. La vaccination autour aussi des cas pour cibler les personnes à risque. Tous ces éléments donc, ont été suivis de façon très rapprochée tous les jours pour voir quelle est la performance, quels sont les gaps en termes d'intervention, mais aussi en termes de qualité pour pouvoir venir à bout de cette épidémie. L'autre élément important sur le plan de la recherche, c'est la disponibilité d'un vaccin maintenant qui a été confirmé au cours de cette épidémie et de 2 molécules qui ont permis d'améliorer le taux de survie des malades. Je pense que c'est extrêmement important.
Est-ce que le dispositif mis en place présentement sur Ebola peut aider la RDC à répondre au COVID-19?
Oui, forcément. Quand vous regardez les approches de contrôle des épidémies, ce sont les mêmes approches. Il faut pouvoir détecter les cas à temps. Cela veut dire avoir un système de surveillance donc solide, pouvoir isoler ces cas aussi à temps et pouvoir suivre le contact. C'est ce qu'on a fait durant cette épidémie d'Ebola. Il y a eu plus de 250 000 contacts qui devaient être suivis tout le temps. Donc, en termes d'alerte et de surveillance, nous sommes allés jusqu'à plus de 60 000 alertes par semaine, donc qui devait être investigué. Et ces éléments donc, qui ont été renforcés durant la lutte contre Ebola doivent être utilisés pour lutter contre les autres épidémies, compris le COVID-19. Si vous regardez aussi les capacités de laboratoire, nous avions déployé 12 laboratoires mobiles capables de faire donc, des tests pour Ebola. Ces capacités doivent être aussi maintenues pour pouvoir détecter le COVID-19 partout où ça se trouve. Mais cela, lutter contre le COVID, cela demande beaucoup plus d'autres moyens. Il faut tout de suite pouvoir contrôler l'épidémie à sa phase initiale parce qu'aucun des pays africains n'a les capacités vraiment de répondre à une grosse épidémie de COVID-19 compte tenu de la nécessité d'avoir donc un nombre important de lits de réanimation, de systèmes d'oxygénation, etc. Donc il faut vraiment tuer l'épidémie dans l'œuf.
Voilà, fin de ce journal. ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.